Radio Spirale.
Les filles bleues de l'été, symbiose et solitude, dans le cadre des rencontres d'écrivains du CRILIC. C'est une rencontre avec Michaela Nicole, animée par Audrey Wilhelmy. Michaela Nicole est l'auteur du roman Les filles bleues de l'été, paru aux éditions du Cheval Doux à l'automne 2014. Elle poursuit présentement une maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, tout en travaillant comme libraire, un métier qu'elle exerce depuis plus de 5 ans.
Donc, je ne sais pas, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter, Michaela. Je vais le faire quand même. Elle est en train de faire sa maîtrise à l'UQAM en études féministes avec Martine Delvaux. Donc, Les filles bleues de l'été se trouve être son premier roman, publié en 2014, à la toute fin de 2014, si je ne me trompe pas, en décembre. Donc, octobre. Ma foi, j'ai noté décembre en arrière de mon livre. Un roman qui est particulièrement construit sur les contrastes, les contradictions, je dirais, mais de façon parfaitement adroite. Donc, entre autres, au niveau de la forme et du versus le contenu, d'un côté, une histoire qui est extrêmement violente, qui repose sur l'incapacité, finalement, à s'ancrer dans le réel, à accepter le monde tel qu'il est. Et, de l'autre côté, une écriture extrêmement douce. Douce semble comme mielleux, mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Donc, une écriture très enveloppante, très poétique, mais pleine de beauté, disons-le comme ça. Donc, la violence avec le contraste de cette beauté-là... premier contraste. Ensuite, aussi le contraste des deux protagonistes qui sont pratiquement, qui sont fusionnels, qui sont en symbiose complète et qui, de l'autre côté, sont incapables de rencontrer le reste du monde. Donc, le contraste entre la solitude extrême, mais une solitude qui se vit à deux, donc qui se vit dans une relation très forte aussi. Il y a aussi tout le côté de la nature et de la sauvagerie, de la liberté qui est mis en contraste avec le côté très contrôlant des deux personnages, l'une par rapport à son corps, par rapport à elle-même, l'autre par rapport à une relation qui lui échappe. Donc, une écriture vraiment des contrastes et de la dualité. Donc, première question, j'aimerais ça t'entendre, en fait, autour de ce sujet-là. Est-ce que toutes ces dualités-là étaient volontaires et comment elles se sont construites, comment elles sont apparues dans l'écriture?
C'est intéressant parce qu'en fait... tu m'as fait découvrir un peu plus que celle que j'avais. Je pense que celle sur laquelle reposait le plus ma démarche à moi, c'était définitivement les deux filles avec lesquelles on allait pouvoir faire des jeux de miroir. On allait pouvoir se perdre un peu là-dedans comme elle se perdait elle-même. Et puis l'autre, c'est l'écriture. Comme on a souvent dit que je refusais de nommer les choses. C'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de la façon dont j'ai écrit le livre. Puis je pense que c'était le plus important, en fait, le plus réfléchi, le plus travaillé aussi, le plus conscient. Mais je dois dire que j'en ai peut-être qui mis en scène ou créé plus que j'avais prévu à la base.
Tu parles justement des deux filles qui sont le reflet l'une de l'autre, qui se construisent en miroir. Elles finissent par pratiquement se confondre. À la toute fin, elles deviennent un nous fusionnel et elles deviennent juste un personnage qui est impossible de savoir qui est qui, en fait. Comment tu les as travaillées? Est-ce que tu les as travaillées séparément ou directement, toujours en miroir, toujours l'une par rapport à l'autre? Est-ce que les voix se sont construites, les histoires séparément? Ou...
Oui. En fait, j'ai commencé par faire l'essai de toujours... C'était toujours une des deux qui décrivait l'autre. Donc, c'est une façon d'utiliser une narration extérieure pour pouvoir en dire le plus possible en étant semi-objectif. Finalement, ça ne fonctionnait pas sur la forme, sur le long terme. Donc, j'ai commencé à glisser des parties à la première personne. Mais ça s'est fait vraiment tardivement. Donc, oui, je construisais vraiment les deux histoires en parallèle avec une narration à la troisième personne pour finalement faire tout ça se rejoindre à la fin. Mais je pense que ça a été vraiment un travail pour la voix, par exemple. C'était vraiment important de le faire séparément parce que sinon, c'était très dur finalement de moi-même me perdre dans l'alternance des histoires, des narrations, du ressenti aussi des deux personnages.
Puis, donc, au départ, c'était deux troisièmes personnes finalement qui étaient en effet le miroir aussi.
Oui.
OK. Puis, en fait, il y a beaucoup dans les, même dans ces narrations à la première personne, il y a beaucoup de descriptions de l'autre, en fait. Mm-hmm. Mais ces descriptions-là sont souvent une façon de mieux connaître le personnage par rapport à lui-même aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça a été, ça a demandé un travail particulier?
Ça a demandé un travail particulier. Bien, je pense que fiction, ça fait partie du travail qui, du thème de l'amitié féminine qui m'intéresse énormément. Tout ce que, en fait, c'est quelque chose que je déplore, mais que j'aime aussi exploiter, le fait que les femmes, on soit souvent on soit souvent comparées les unes aux autres. Par exemple, on apprend à faire ça très tôt. Puis je trouve que c'est très révélateur, la façon dont on parle de quelqu'un d'autre, évidemment, par rapport à, comme tu dis, notre propre ressenti. Je trouvais que ça se faisait tout seul, finalement, parce que de dire que l'une des deux trouve l'autre donc belle et donc parfaite physiquement, mais qu'est-ce que ça dit d'elle finalement par rapport à sa perception d'elle-même. Donc, je trouvais que ça s'est fait assez naturellement.
La place de l'amitié est extrêmement importante. Elle devient, en fait, elle devient tout dans le roman. Donc, tu dis que c'est un thème qui est très important dans ton travail. Est-ce qu'il y avait une façon particulière de le travailler? Est-ce que dès le départ, quand tu as commencé à travailler, c'était ça que tu voulais explorer?
Oui.
Mais encore!
ben oui, parce que je trouvais que c'était une belle façon, en fait, de refuser justement un peu ce dont je viens de parler, qui est l'espèce d'impossibilité, surtout en littérature, des personnages féminins qui sont amis, mais vraiment amis. Pour les bonnes raisons, c'est plus dur à trouver. On a souvent le réflexe de se mettre justement en opposition, en compétition. je trouvais que c'était... en fait, je ne savais pas si j'y croyais à cette possibilité-là d'acceptation complète, des problèmes qui sont tellement différents, mais un peu complémentaires, qui forment pas de compétition, finalement, entre les deux filles, pas vraiment de jalousie. Donc,
il n'y en a pas une qui est pire que l'autre, ou il n'y en a pas voilà. Une qui... Ouais. Puis ça porte beaucoup aussi, l'une l'autre. Elles se nourrissent et elles se guérissent, d'abord. Est-ce que... Donc, toute la première partie repose sur une guérison. Est-ce que... dans la deuxième partie, tu crois que... Bon, là, on est dans on sort un peu de l'intrigue, mais finalement, est-ce que les personnages se nuisent finalement plus qu'ils s'aident? Leur amitié, finalement, leur nuit plus que...
Oui, bien, en fait, je trouvais... Moi, je pense qu'elles se sont comme entretuées, dans un sens, en s'enfermant dans le malheur. En fait, j'aimais... bien l'illusion qu'elles étaient guéries alors que moi-même et probablement elles aussi savaient qu'elles n'allaient pas s'en sortir. Donc, je trouvais qu'au lieu d'essayer de se guérir, elles ont plus fabriqué un espace sécuritaire pour mourir finalement, pour aller mal, pour avoir le droit d'aller mal. Je trouvais que, en fait, moi, c'est beaucoup plus comme ça que je vois leur amitié et leur support.
Ben, d'entrée de jeu, c'est un peu évident que le suicide va être la... Je vole vraiment pas un punch, honnêtement. Que le suicide va être la seule fin possible.
Est-ce que, ben, c'est pas tellement une surprise. Dès les premières pages, on voit pas trop comment ça peut finir d'autre. Est-ce que pour toi, c'était clair au départ aussi?
Ouais, j'ai dit que je savais depuis le début, mais ça a pris un petit bout, mais pas longtemps, en fait. Je sais pas comment je pourrais l'estimer, là, à environ 25 pages, là, quelque chose comme ça. Puis j'ai décrit l'intrigue à un ami qui m'a dit « J'espère qu'ils vont mourir. » Puis je me suis dit « Ouais, dans le fond, c'est là, ça s'en va, il n'y a pas d'autre. » C'est comme j'ai un peu constaté comme ça. C'était dans les premières ébauches. Je ne sais même pas si ce brouillon-là se fait dans le livre, finalement. Mais ouais, c'était assez tôt. Puis à partir du moment où l'idée était faite, bien évidemment, tout était... Tout s'alignait vers ça, chaque construction, chaque idée.
Rapprochait ouais. de ce côté inéluctable-là. Donc, y a les deux filles, donc Clara et Chloé, d'abord, juste leurs noms sont extrêmement proches. Est-ce que c'était volontaire ou c'était comme pas vraiment conscient au départ? Ou c'était...
Je pense que c'était volontaire.
OK.
Je m'en souviens pas, mais oui...
Ben, c'est ça, les...
Oui, forcément.
Ouais. Ben, des fois, on fait des choses comme ça sans s'en rendre compte aussi. Mais peut-être on peut les prendre l'une et l'autre individuellement pour commencer. Donc, Clara est en peine d'amour. Elle est fâchée, mais en même temps, elle est dans une espèce de conflit entre l'amour et la peine d'amour et ce que ça dit d'elle, la faiblesse que ça, dont ça témoigne puis qui n'est pas elle jusque-là. Cette colère-là, est-ce qu'elle a été facile à développer, à trouver? C'est quand même très singulier comme rage parce qu'on sent à travers cette agressivité-là, toute la liberté qui est arrachée au personnage.
Mm-hmm.
Donc, comment ça s'est travaillé au départ? Est-ce que dans ta tête, ça allait être une peine d'amour qui... Puis, bon, on voit... Est-ce que le personnage était déjà... c'était déjà certain qu'elle allait être très fort? Puis, comment ça s'arrête?
Mm-hmm. Ben, je pense que ça partait d'une réflexion personnelle par rapport à... la blessure d'orgueil qu'on mélange souvent avec la peine d'amour aussi. Puis mais tu l'as bien dit, en fait, c'est vraiment le sentiment d'être ralenti dans son élan, en fait, d'être affaibli passablement. C'est fâchant, c'est ça, c'est une entrave à ta liberté, à ta force. Puis non, ça peut être dur.
Mais ça rage
à imaginer.
Particulièrement tourné vers l'extérieur, ouais. En fait. Contrairement à Chloé, dont la colère est vraiment tournée vers l'intérieur,
ouais.
Mais on n'a pas tant de, on n'a pas autant d'explications sur l'origine de cette colère-là pour Chloé par rapport à celle qu'on peut avoir pour Clara.
Mm-hmm.
Donc, elle est plutôt dans l'autodestruction. Puis, quand tu as travaillé le contraste entre les deux, est-ce que la façon d'interagir avec le monde dans la frustration puis dans le désespoir était un élément que tu cherchais particulièrement, que tu travaillais principalement?
Oui, bien en fait, le contraste dirigé vers l'extérieur, dirigé vers l'intérieur pour les deux filles, c'était très important en fait parce qu'il fallait trouver le plus de points précis possible pour distinguer leur malheur, dans le fond. Donc c'était... Des points assez concrets, finalement, dans les actions des personnages qui étaient faciles à distinguer. Tu sais, je pense, autant moi, là, je parle, c'est très, très technique ce que je dis, mais si tu as deux personnages, ils filent pas, puis c'est deux filles qui s'appellent presque pareil. Tu sais, il faut qu'il y ait des choses qui les distinguent bien. Donc, c'est sûr que la colère, bien, c'est un sentiment qui est très fort, puis qui est très. C'est une force motrice aussi, dans un sens. Donc, cette force-là est complètement absente chez Chloé, en fait. Ça, c'était des points, des contrastes qui étaient très importants pour moi de créer.
Puis, donc, elles sont en vase clos, les deux. Puis, en fait, il y a très peu... on a peu accès à l'extérieur à travers elle. On a accès à l'amant de Clara, mais c'est le seul personnage qui vient définir. On a un peu les parents de Chloé, mais encore là, ils sont très flous. Ils sont seulement décrits par Clara de temps en temps. Est-ce que ça aussi, il y a les amis aussi un petit peu, mais toujours d'une façon, on n'est pas certain finalement de la réalité de ces descriptions-là, puisque les personnages sont tellement ensemble et déconnectés du réel qu'on ne sait pas finalement s'ils nous disent la vérité ou s'ils nous racontent n'importe quoi. Comment tu as travaillé la question du monde extérieur puis l'interaction avec les filles?
En fait, je pense que j'ai voulu donner le plus de libre arbitre et de force aux deux personnages, dans le sens que elles sont peut-être totalement irrationnelles, peut-être que leur malheur est complètement créé de toutes pièces par leur ressenti de jeune fille. T'sais, on n'a aucune preuve, comme tu dis, que ça va vraiment mal, entre guillemets. T'sais, c'est pas tangible, on sait pas qui les attaque, on sait pas, c'est comme un sentiment qui vient de l'intérieur. Puis je trouvais que même si ça finit mal pour elles, on a un peu forcé d'accepter qu'elles ont été fortes finalement, qu'elles ont choisi leur propre issue finalement, avec sans l'influence finalement, sans s'y faire pousser non plus. Donc ça, j'aimais ça. Donc c'est pour ça que le monde extérieur est presque absent. Parce que c'est pas là, c'est clairement pas là qu'elle vit, dans le fond, parce qu'elle veut pas se rattacher. Elle veut pas chercher de l'aide non plus. Donc, c'est pour ça que c'est des personnages presque fantomatiques qui passent, qui repartent, qui réussissent pas à avoir d'emprise sur elle, presque.
puis en fait, qui paraissent exactement comme ça aussi pour les gens qui les entourent. Leurs amis les trouvent de plus en plus effacés, ouais. De plus en plus plates aussi.
Ouais.
Est-ce que, donc, à travers toute cette solitude-là, il y a une fête qui vient au centre, au centre du livre. Pourquoi? Qu'est-ce qui était derrière ce choix-là?
Je pense que c'était justement une bonne façon de montrer l'inadéquation finale des filles avec leurs amis. Avec ça aussi, je pense que c'est comme un genre de statement. c'est quoi la jeunesse, entre guillemets, c'est censé être ça. Puis forcément qu'on n'est plus capable de prendre plaisir à ça, la fête, boire, avoir des amis, c'est pas bon signe. c'était vraiment c'est l'ennui finalement, l'ennui qui surgit, le sentiment aussi d'étrangeté. D'être incapable de s'accoler aux autres, d'interagir. Je trouvais que c'était un moment finalement qui passe assez vite, puis où il y a presque personne qu'on voit sauf les deux filles, mais encore une fois, ça en dit long. En fait, ça déconstruit ou ça invalide les mythes de la jeunesse pour elle.
Puis parce que tu parles d'ennui, est-ce qu'elles s'ennuient ou elles sont. Elles sont décalées. Est-ce qu'elles-mêmes sont dans l'ennui?
Oui, c'est peut-être pas l'ennui ou c'est peut-être plus un décalage, en effet, comme une espèce de position de retrait où tu observes sans pouvoir te reconnaître. Oui, c'est peut-être plus le sentiment.
Parce que finalement, elles se trouvent à se reconnaître nulle part, sauf dans effectivement la bulle qu'elles se sont construites puis qui n'est pas vrai. Donc, si tu parlais de la fin puis du fait que c'est triste, que le suicide, je me demande sincèrement si j'ai trouvé ça triste pour vrai. C'est triste dans la vie concrète, réelle des choses, mais je trouve que le roman parvient assez bien à en faire quelque chose qui n'est pas triste, qui est juste une suite cohérente. Je me demandais si quand tu l'as écrit, la perspective était quand même cette espèce de tristesse-là finale, ou si c'était au contraire de présenter le suicide comme quelque chose d'acceptable parfois.
J'ai tellement dû en parler de ça parce que c'est vraiment. J'en sens, par exemple, avec les personnes plus proches de moi, entre autres, qui, moi, étaient loin de me douter que ça allait faire un effet comme ça. Finalement, il paraît que c'est quand même triste. Mais non, ben moi, en fait, je trouvais pas que la fin du livre était particulièrement triste. J'étais vraiment. C'est la chose qui m'a probablement le plus surprise dans la réception. Des gens qui pleuraient, plein de gens m'ont rapporté d'avoir pleuré. Ou autres qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé la fin parce que c'était trop dramatique, qu'ils auraient aimé que les filles se battent. Bon, moi, je trouvais que c'était. En fait, je ne trouvais pas ça triste, moi non plus. J'avais un peu l'impression que c'était un soulagement, en fait. Que c'était une suite logique, mais bon, dans l'univers du livre, évidemment.
Oh oui!
Mais j'ai pas non plus eu de thèse comme quoi c'est acceptable parfois. C'était. J'ai pas poussé ma réflexion jusque-là. Non, mais je trouvais ça beau à la limite, vraiment. Je trouvais ça esthétique qu'elle meure.
Je dirais que esthétique est le terme aussi, que cette mort-là, pour moi, elle est aussi belle. Comme pas. C'est pas violent non plus du tout comme mort. Elles sont ensemble, elles sont. Bon, elles ont peut-être un peu froid, mais à part ça, tu sais, je veux dire, c'est pas. Mm-hmm. C'est pas spectaculaire, c'est pas flamboyant, donc le côté dramatique. Mais c'est sûr que les proches réagissent parfois autrement un petit peu au texte.
C'est dur à expliquer à une mère.
je comprends cet enjeu-là. J'essaie de voir dans mes notes. Ce jeu qui devient nous à la toute fin, on parle de beauté, puis ça, est-ce qu'il contribue pas un peu à la beauté de cette scène-là, que finalement, elles ont tellement essayé d'être les deux ensemble, puis finalement, elles vont être ensemble complètement. Est-ce que c'est ça. Est-ce que ça fait pas partie de la beauté de cette fin-là?
Ben moi, c'est ce qui me touche dans la fin, en fait. Bien avant la mort des filles, la quatrième de couverture que j'ai eu l'occasion de relire depuis tantôt. C'est une phrase au nous aussi. C'est vraiment, c'est peut-être la réflexion, le truc formel à la base du tout, en fait. Je sais pas, le nous féminin me passionne. J'aime ça le remettre en question, j'aime écrire. J'en ai fait le sujet de ma maîtrise à l'UQAM. Donc, oui, c'est sûr que moi, c'est l'aspect que je trouve le plus intéressant dans la fin, finalement. Même, on pourrait dire, comme point d'aboutissement de tout le livre, c'est peut-être plus le nous que la mort, finalement.
Oui, qui est très fusionnel. La grossesse du personnage, l'imaginaire, il faut dire, oui. Est-ce qu'elle vient aussi jouer ce rôle-là ou au contraire, elle vient plutôt être une tentative de s'en sortir, d'une part, mais de se distancer? Donc, Clara, qui est persuadée d'être enceinte de son amant, mais bon, c'est plus dans sa tête que d'autres choses. Est-ce que c'est une façon de s'éloigner de Chloé, mais que ça marche pas finalement?
Moi, je le voyais comme une espèce de désir un peu crush de garder quelque chose de cette relation-là, finalement. De ne pas être enceinte, ce qui était probablement la bonne chose dans son cas. Ça, c'est un peu comme le coup final, finalement, qui vient souligner le fait d'être vide, une première fois, d'être encore plus vide qu'on pensait, avec aucune emprise, avec aucune... Bon, c'est vraiment le niveau d'analyse que j'y voyais, mais... C'est vrai que si on rajoutait un troisième élément ou un élément entre les deux filles, mais là, il y aurait probablement pas. C'est nous, final.
Puis, en fait, Clara suit Chloé un peu dans la mort. Est-ce que elle aurait eu plus le potentiel de s'en sortir que son amie? Comment ça s'est construit? Est-ce que, pour toi, c'était déjà clair dès le départ que c'était les deux ensemble qui devaient mourir? Comment ça s'est travaillé?
Oui, en fait, je pense qu'à un moment donné... Je me suis rendu compte que Clara pouvait s'en sortir, mais pas Chloé. Puis ça pouvait pas finir comme ça. Puis il y a Mais je pense que c'est carrément un sentiment de solidarité qui embarque à la fin. Mais aussi l'impossibilité, comme on a dit, elles se sont tellement ennuyées. Elles se sont fait croire finalement qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de futur. Donc, pas l'une sans l'autre, en tout cas. Donc, si, c'est sûr que si une des deux partait, ça devait être les deux. Mais je pense que ça, je me souviens dans l'évolution du récit, dans l'évolution des personnages, à un moment donné, j'ai vu que c'était pas égal finalement, juste par le. Tu sais, justement, on parlait de la colère comme force motrice. Moi, je crois à ça, je crois que ce sentiment-là a ce pouvoir-là, contrairement à la tristesse. Puis à un moment donné, ça. Je voyais que Chloé n'avait pas cette force-là comparativement.
Qui aurait permis à Clara, éventuellement, si elle n'avait pas eu Chloé en arrière, de s'en sortir. Peut-être passer à autre chose. Je reviens plus vers le début du texte, puis toute l'écriture des sens, toute l'écriture de la nature aussi, qui est très présente, qui est très sensorielle. Comment est-ce que c'était. Parce que les personnages appelaient ça, ou c'est plutôt toi qui avais envie d'écrire directement la nature de cette façon-là? Est-ce que.
C'était. Ça, la nature, ça venait du motif de la fuite, en fait. Donc, j'imaginais toujours. En fait, je lisais beaucoup de poésie, mais ça, dans ce temps-là, ça alimentait beaucoup mon imaginaire. Et puis. J'avais toujours l'image justement de s'éloigner de la ville, s'éloigner comme la seule solution pour les personnages que j'avais commencé à ébaucher. Donc, mais oui, je pense qu'à un moment donné, elles se fondent un peu là-dedans aussi, puis il y a comme une surenchère de nature, tu sais, qui les suivent même quand c'est la ville, quand c'est cette incapacité-là d'en revenir, qui est presque pathétique finalement, tu sais, tu vois qu'elles sont déjà... Elles sont déjà perdues, mais ça a été vraiment juste le petit début d'écriture qui a influencé tout le reste là-dessus. Ça a imprégné vraiment.
À travers leur façon de percevoir la nature, elles se distinguent déjà l'une l'autre. Donc, elles ne remarquent pas les mêmes choses, elles ne décrivent pas la nature de la même façon. Est-ce que tu as fait un travail particulier dans ce sens-là aussi?
Non. Mais j'ai pas... Peut-être que tu peux m'en...
Ben, j'ai pas assez...
J'ai pas remarqué.
Je pourrais pas te retrouver ça au hasard, mais je trouvais que c'était assez frappant sur les éléments qui sont décrits, le rapport à l'eau plus pour l'une, le rapport... Il y a des feux, il y a la forêt et le refus de Chloé d'entrer dans la forêt aussi. Qu'elle va finalement y aller, mais ce ne sera pas son espace du tout. Donc, tout ça parle quand même des personnages.
Mais c'est... par exemple, Clara était souvent plus associée au feu, peut-être, puis à la forêt aussi, par son désir d'aventure, peut-être. C'est quelqu'un qui est un peu comme on dit, restless, là. C'est quelqu'un sans repos et toujours... l'inactivité, c'est ce qui la tue finalement, donc c'est le désir justement d'aller explorer, d'être toujours... Parce que Chloé est probablement du côté beaucoup plus passif de la nature, l'immobilité, le silence.
La contemplation beaucoup. Puis, bon, cette nature-là finalement les libère, mais va aussi les détruire parce qu'elles vont devoir la quitter. La fête permet cette transition-là. L'arrivée de l'amant vient aussi changer un peu le rapport à l'espace, au lieu. Est-ce qu'il vient vraiment créer une rupture entre les deux, ou bien plus Chloé regarde son amie retourner avec cet homme-là, plus elle sent... moi, elle ne se sent pas éloignée nécessairement de Clara à travers lui. Comme elle voit la fin inéluctable, ou c'est ça. Comment cette interférence de l'étranger vient changer la dynamique?
des choses que je me suis fait reprocher par une personne en particulier qui m'a écrit un long courriel pour me dire que j'aurais jamais dû le faire revenir au chalet. Puis, en effet, ça vient vraiment bouleverser la dynamique, mais dans le sens où ça signale la fin, en fait, de ce qu'elles ont essayé de se créer. Mais je pense que j'ai... en fait, par rapport à Chloé, je pense qu'elle se sent... elle se sent en retrait, mais pas rejetée. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu... je voulais pas installer ce sentiment-là, cette dynamique-là. Mais c'est clair que lui, il transporte avec lui la ville, tout ce qui est arrivé là-bas. Et forcément, ben, il annonce la fin, il annonce une brisure. Donc, mais... C'est ça, je me questionne, en fait, encore sur comment ça a changé leur dynamique, sur... Est-ce que c'était... est-ce que j'aurais dû, en fait? C'est une question qui ne sert vraiment à rien de me le demander, mais est-ce qu'il y aurait eu moyen d'exploiter le sentiment de symbiose plus longtemps, sans avoir besoin de l'instance extérieure, qui était quand même déterminante, là, je veux dire, qui
ben, nécessaire pour faire progresser le récit est un peu inévitable. Je sais pas pour le reste, mais...
non, mais c'est des questions qui me sont venues par la suite, parce que c'est vrai qu'on aurait pu, comme tu dis, l'extérieur est tellement peu présent. On aurait pu le laisser complètement à l'extérieur, par exemple, de l'endroit presque sain qui était devenu la forêt.
Mais en même temps, il vient parler des deux filles autrement. Il vient les faire interagir, puis il révèle des facettes supplémentaires de ce qu'elles sont. Est-ce que tu as eu beaucoup de réactions de lecteurs comme ça?
Mais quand même. Mais en fait, oui. Oui. Mais j'ai... je pense que c'est un... Comme je disais tantôt, avec la fin et tout, il y a beaucoup de gens qui sont sentis interpellés. Mais aussi, c'est des problèmes assez typiques de la jeune fille de début vingtaine, disons. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi. De gens que je connaissais pas, mais qui, justement, s'étaient reconnus beaucoup là-dedans.
C'est sûr que la question de ces deux personnages qui sont inadéquats dans le monde qui leur est proposé, donc ça doit quand même toucher assez largement les jeunes lecteurs, cégep, puis le début d'université, beaucoup. Mm-hmm. C'est leur âge, en fait. Ça devait être intéressant de les rencontrer autour de ça. Je pense que ça fait le tour de ce que moi je voulais demander. Est-ce que vous avez des questions dans la salle?
Moi j'en ai une. Tu as évoqué le fait que tu lisais beaucoup de poésie au moment où tu as écrit donc, les figures de l'été. Moi en lisant vraiment, j'ai pensé à Anne Hébert. Je me demandais s'il y avait d'autres, s'il y avait des figures comme ça, pas nécessairement de la littérature québécoise, mais qui t'avaient inspiré ou.
Je lisais beaucoup un poète qui s'appelle Pierre Pushmore, qui est assez. Peu connu, finalement, ici. Il y a beaucoup un imaginaire avec la nature, avec les animaux, mais c'est aussi des poèmes, en fait, certains de ses recueils, c'est des poèmes extrêmement longs et narratifs. Donc, moi, j'aime beaucoup le... Apparemment, j'aime beaucoup mélanger poésie et prose. Donc, il y avait ça qui était très présent. Et puis... en fait, je pense que le titre qui est tiré d'Anne Hébert et la citation en exergue de Virginia Woolf, c'est beaucoup aussi. Bon, évidemment, là, ça devait être les auteurs que je lisais le plus à ce moment-là, au moment d'écrire. Les vagues en particulier, qui étaient dans le mouvement aussi, qui m'a assez inspirée. Et puis, l'intériorité, le style précis de ce roman-là. Pour mes autres influences, il faudrait que j'y repense. Mais qu'est-ce que je disais comme poésie dans ce temps-là? Mais je sais que c'est Pierre Pushmore, je m'en rappelle très clairement. Il était toujours à côté de moi sur le recueil en particulier. Là.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Mais comment as-tu réagi quand tu mentionnais que tu recevais des courriels du public, dont celui que tu as reçu par rapport au retour de...
Mais ça, c'est un critique littéraire en plus. comment je réagis?
Ça, tu l'écris directement, il n'est pas publié.
Non, écrit à moi. Mais c'est toujours, quand c'est des témoignages, c'est toujours difficile de trouver, évidemment. Là, je veux dire, vous pouvez imaginer quel genre de réponse on essaie de faire. Là, c'est toujours un peu difficile. Mais en même temps, c'est touchant parce que c'est ça. Disons, je sais pas si. Peut-être moi j'étais égoïste dans mon écriture, mais j'avais jamais entrevu ce genre de réception-là, de gens qui allaient, des sensibilités que j'allais toucher comme ça. J'avais vraiment jamais pensé à ça. C'était un roman que je considérais très, très personnel aussi. Donc, puis pour les autres choses, ben je sais pas, pour les fins, la fin qui est trop triste, par exemple, des choses comme ça, je sais pas, j'ai jamais eu la réaction appropriée. Je pense que je la cherche encore.
C'est quoi la réaction appropriée?
Pardon?
C'est quoi la réaction appropriée?
Je sais pas. Moi, j'aime ça que ça finisse comme ça. J'aime encore ça, après un an et demi. Mais je sais, en fait, c'est drôle parce que je me demande si ça fait... Tu sais, c'est ma première expérience de publication, puis on se demande si... Est-ce que tout le monde reçoit autant de conseils ou corrections, en guillemets, c'est par rapport à son livre? Est-ce que les gens ont toujours envie aussi l'espèce de drôle de fantasme de changer le cours des choses là, qu'on a en regardant un film? Donc, c'est sûr que c'est des questions que je me pose encore. Ça a été une réception vraiment très riche et vraiment variée aussi.
Personnellement, je trouvais qu'en lisant de la deuxième façon, je voyais le tout de manière un peu plus optimiste. À la deuxième lecture, je voyais davantage le titre comme « L'été des filles bleues ». C'est un titre qui est également contrasté, « Les filles bleues », donc le bleu qui évoque un peu la mélancolie, le spleen, le blues finalement, et l'été qui évoque un peu le contraire. Donc, je ne sais pas, juste du côté du titre, est-ce que tu as déjà pensé, avais-tu déjà pensé à l'intituler « L'été ». Des filles bleues, au lieu des filles bleues de l'été. Parce que je trouve que selon ces deux lectures-là, on a une perception différente.
Ben, c'est vrai, en fait, que l'été des filles bleues, ça donne un peu l'impression qu'elles avaient le contrôle sur l'été, tandis que le contraire donne l'impression qu'elles en ont été victimes. Mais j'ai jamais pensé à ça parce qu'en fait, c'est un vers que j'ai pris tel quel dans un poème d'Anne Hébert, donc j'ai pas pensé à le reste. Mais c'est intéressant ce que tu dis, en fait. Puis en partant de la fin, est-ce qu'elle renaît? Est-ce qu'elle ressuscite? Qu'est-ce que ça fait comme effet?
Ben, ce que je me souviens, c'est que partant de la fin, ça va du, si on veut, du pire au positif, alors que du début à la fin, ça va de mal en pire, si on veut. Mais en lisant de deux façons, une vision un peu plus équilibrée aussi. J'invite les autres à le lire deux fois.
Bonne idée. Je vais peut-être essayer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michaela, oui?
Ben, je me demandais juste s'il y avait d'autres projets d'écriture qui s'en venaient.
Bonne question.
Curiosité. Mmh. Que ça ouvre sur l'avenir. Voilà.
Oui. ouais, ben là, je travaille beaucoup, mais je peux pas trop en dire plus. Puis, je vais avoir un mémoire de maîtrise à faire aussi. Éventuellement, il va falloir s'y mettre, mais je pense que ça fait deux beaux projets d'écriture sur lesquels je me penche ce temps-ci.
Merci.
Pas que j'ai.
Ben, c'est parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent dans les rencontres avec le CRILC, c'est la satisfaction postpartum. Comment est-ce que tu te sens par rapport au livre maintenant qui est sorti, qui existe en lui-même? Est-ce que tu le sens, ben là, en l'ayant lu à l'envers, à l'endroit, est-ce que tu sens qu'il y a des failles? Est-ce que tu sens, comment tu te sens par rapport à ce livre-là maintenant, qu'il est dans le monde, si on peut dire?
C'est comme un tatou, tu sais, ça, c'est comme des phases, là. Mais ça a beaucoup changé. En fait, c'est quelque chose de dur. Puis, tu sais, moi, j'étudie en littérature depuis longtemps, en guillemets, depuis que j'étudie à l'université. Puis, je trouve qu'on évolue extrêmement vite dans l'écriture, qu'on est forcé de se pencher tout le temps. Donc, ça, c'est une question que je me pose. Aussi, il y a le sentiment, évidemment, que je me sens proche de ce livre-là parce que c'est mon premier, mais il y a aussi un sentiment d'étrangeté qui s'installe parce qu'on voit que déjà le style, déjà les thèmes évoluent très vite. Donc, mais sinon, j'ai eu des phases où fallait que j'en lise des bouts devant des gens, puis c'est super triste, puis j'en revenais pas dans ça. Pourquoi j'ai... Mais... ouais, non, c'est une belle satisfaction, là, honnêtement, mais c'est aussi des sentiments d'espèce de dynamique entre fierté, puis aussi entre espèce de gêne post, tu sais. Il est trop tard, là, mais c'est ça.
Les courriels, par exemple, les gens qui t'ont envoyé des commentaires, ça t'a pas affecté?
Non.
Si tu fais confiance à ce que t'as écrit?
Ah oui, non, mais c'est plus l'évolution du sentiment dont je parle, mais non, oui, évidemment, pour un premier roman, j'aurais pas pu, disons, entendre mieux là, de la réception des gens, des critiques, tout, la longue vie aussi, qui est pas relative longue vie, qui est inespérée.
Ben, merci. S'il y avait d'autres questions?
Une question pour Madame, peut-être. Est-ce que vous avez parlé de... Là, j'y vais comme ça. Vous avez parlé de la filiation avec Anne Hébert. Je l'ai beaucoup vu dans votre premier roman.
Dans mon roman?
Oui. Je l'ai moins vu dans... Parce que je l'ai lu celui-là aussi. Mais pourquoi vous avez vu Anne Hébert là-dedans?
C'est pas juste le titre. Je trouvais dans le huis clos, le style poétique. C'est vraiment des impressions de lecture. Hein. Je ne l'ai pas, pas cherché à étayer mon interprétation, mais... oui, c'est ça, le huis clos, ça me rappelait un peu l'espèce d'angoisse parfois là, qu'on retrouve dans certains univers. Mais c'est vrai qu'on trouve ça aussi chez Audrey.
Mais moi, j'aurais tendance à dire que ici, dans l'écriture, très, parce qu'Anne Hébert, je l'ai quand même aussi beaucoup lu, c'est dans l'écriture des sens aussi, qui est très forte, la façon dont la nature est construite, puis... comment elle est perçue par les personnages, puis comment elle vient finalement interférer peut-être avec leur perception. Ça, c'est quand même assez proche aussi d'Anne Hébert, je crois. Mais je pense que tu seras la mieux placée aussi pour répondre.
Mais je trouve pas, en fait, parce que c'est très dur de juger justement, de partager ses influences de son propre travail, puis aussi l'interprétation qu'on fait de ses influences. Je peux affirmer, par exemple, que je suis partie beaucoup plus de Virginia Woolf, mais qu'après ça, on m'a constamment parlé d'Anne Hébert. Donc, je ne sais pas à quel point je peux en juger moi-même.
Puis, tant qu'à être dans des filiations, le Martine Delvaux, qu'est-ce que là tu vas étudier avec elle. Ça aussi, c'est comme... Là, c'est une autre génération, là, mais...
Oui. Ben c'est des filiations plus politiques, plus engagées que littéraires, probablement, j'ai tendance à dire. Tu sais, par exemple, j'ai parlé de... du nous féminin tantôt. Martine Delvaux qui a travaillé sur les filles en série, donc les sérialités de femmes présentées en groupe pour toutes sortes d'effets, là, donc des Barbie à toutes les autres séries là, bon, qui existent. Donc c'est plus une filiation au niveau de travail intellectuel de recherche, peut-être.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Michaela, pour tout ça. Puis on reste ici, fait que ça avait d'autres questions. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne soirée.
Radio Spirale.